Jules Verne, une fantaisie du docteur Oix, chapitre 13, où il est prouvé, une fois de plus, que d'un lieu élevé, on domine toutes les petitesses humaines. Vous dites, demanda le bourgmestre Ventricasse au conseiller Niclos. Je dis que cette guerre est nécessaire, répondit le conseiller d'un ton ferme, et que le temps est venu de venger notre injure. Eh bien moi, répondit avec aigreur le bourgmestre, je vous répète que, si la population de Quiquendone ne profitait pas de cette occasion pour revendiquer ses droits, elle serait indigne de son nom. Et moi, je vous soutiens que nous devons sans tarder réunir nos cohortes et les porter en avant. « Vraiment, monsieur, vraiment !» répondit Ventricasse. « Et c'est à moi que vous parlez ainsi. À vous-même, monsieur le bourgmestre, et vous entendrez la vérité, si dure qu'elle soit. Et vous l'entendrez vous-même, monsieur le conseiller, » riposta Ventricasse hors de lui. « Car elle sortira mieux de ma bouche que de la vôtre. Oui, monsieur, oui, tout retard serait déshonorant. Il y a 900 ans que la ville de Quiquendone attend le moment de prendre sa revanche. Et quoi que vous puissiez dire, que cela vous convienne ou non, nous marcherons à l'ennemi. Ah, vous le prenez ainsi, répondit vertement le conseiller Niclos. Eh bien, monsieur, nous y marcherons sans vous, s'il ne vous plaît pas d'y venir. La place d'un bourgmestre est au premier rang, monsieur, et celle d'un conseiller aussi, monsieur. Vous m'insultez par vos paroles en contrecarrant toutes mes volontés, s'écria le bourgmestre, dont les poings avaient une tendance à se changer en projectiles percutants. Et vous m'insultez également en doutant de mon patriotisme, s'écria Niclos, qui lui-même s'était mis en batterie. Je vous dis, monsieur, que l'armée quiquendonienne se mettra en marche avant 2 jours. Et je vous répète, moi, monsieur, que 48 heures ne s'écouleront pas avant que nous ayons marché à l'ennemi. Il est facile d'observer par ce fragment de conversation que les deux interlocuteurs soutenaient exactement la même idée. Tous deux voulaient la bataille. Mais leur surexcitation les portant à disputer, Niclos n'écoutait pas Ventricasse et Ventricasse n'écoutait pas Niclos. Ils eussent été d'une opinion contraire sur cette grave question, le bourgmestre aurait voulu la guerre et le conseiller aurait tenu pour la paix, que l'altercation n'aurait pas été plus violente. Ces deux anciens amis se jetaient des regards farouches. Au mouvement accéléré de leur cœur, à leurs pupilles contractées, au tremblement de leurs muscles, à leur voix dans laquelle il y avait du rugissement, on comprenait qu'ils étaient prêts à se jeter l'un sur l'autre. Mais une grosse horloge qui sonna arrêta heureusement les adversaires au moment où ils allaient en venir aux mains. « Enfin, voilà l'heure !» s'écria le bourgmestre. « Quelle heure ?» demanda le conseiller. « L'heure d'aller à la tour du Beffroi. C'est juste, et que cela vous plaise ou non, j'irai, monsieur. Moi aussi. Sortons, sortons !» Ces derniers mots pourraient faire supposer qu'une rencontre allait avoir lieu et que les adversaires se rendaient sur le terrain. Mais il n'en était rien. Il avait été convenu que le bourgmestre et le conseiller, en réalité les deux principaux notables de la cité, se rendraient à l'hôtel de ville, que là ils monteraient sur la tour, très élevée, qui le dominait, et qu'ils examineraient la campagne environnante afin de prendre les meilleures dispositions stratégiques qui pussent assurer la marche de leurs troupes. Bien qu'ils fussent tous deux d'accord à ce sujet, ils ne cessèrent pendant le trajet de se quereller avec la plus condamnable vivacité. On entendait les éclats de leurs voix retentir dans les rues, mais tous les passants étant montés à ce diapason, leur exaspération semblait naturelle et on n'y prenait pas garde. En ces circonstances, un homme calme eût été considéré comme un monstre. Le bourgmestre et le conseiller, arrivés au porche du Beffroi, étaient dans le paroxysme de la fureur. Ils n'étaient plus rouges, mais pâles. Cette effroyable discussion, bien qu'ils fussent d'accord, avait déterminé quelques spasmes dans leurs viscères. Et l'on sait que la pâleur prouve que la colère est portée à ses dernières limites. Au pied de l'étroit escalier de la tour, il y eut une véritable explosion. Qui passerait le premier? Qui gravirait d'abord les marches de l'escalier en colimaçon? La vérité nous oblige à dire qu'il y eut bousculade et que le conseiller Niclos, oubliant tout ce qu'il devait à son supérieur, au magistrat suprême de la cité, repoussa violemment Ventricasse et s'élança le premier dans la vis obscure. Tous deux montèrent d'abord 4 à 4, en se lançant à la tête les épithètes les plus malsonnantes. C'était à faire craindre qu'un dénouement terrible ne s'accomplît au sommet de cette tour qui dominait de 357 pieds le pavé de la ville. Mais les deux ennemis s'essoufflèrent bientôt, et au bout d'une minute, à la 80e marche, ils ne montaient plus que lourdement en respirant à grand bruit. Mais alors, fût-ce une conséquence de leur essoufflement, si leur colère ne tomba pas, du moins elle ne se traduisit plus par une succession de qualificatifs inconvenants. Ils se taisaient, et, chose bizarre, il semblait que leur exaltation diminuât à mesure qu'ils s'élevaient au-dessus de la ville. Une sorte d'apaisement se faisait dans leur esprit, les bouillonnements de leur cerveau tombaient comme ceux d'une cafetière que l'on écarte du feu. Pourquoi ? À ce pourquoi, nous ne pouvons faire aucune réponse. Mais la vérité est que, arrivés à un certain palier, à 266 pieds au-dessus du niveau de la ville, les deux adversaires s'assirent et, véritablement plus calmes, ils se regardèrent pour ainsi dire sans colère. « Que c'est haut !» dit le bourgmestre en passant son mouchoir sur sa face rubiconde. « Très haut !» répondit le conseiller. « Vous savez que nous dépassons de 14 pieds Saint-Michel de Hambourg ?»« Je le sais !» répondit le bourgmestre avec un accent de vanité bien pardonnable à la première autorité de Quiquendone. Au bout de quelques instants, les deux notables continuaient leur marche ascensionnelle, jetant un regard curieux à travers les meurtrières percées dans la paroi de la tour. Le bourgmestre avait pris la tête de la caravane sans que le conseiller eût fait la moindre observation. Il arriva même que, vers la 304e marche, Ventricas s'étant absolument éreinté, Niklos le poussa complaisamment par les reins. Le bourgmestre se laissa faire et quand il arriva à la plateforme de la tour, « Merci, Niklos, dit-il gracieusement, « je vous revaudrai cela. » Tout à l'heure, c'était deux bêtes fauves prêtes à se déchirer qui s'étaient présentées au bas de la tour. C'était maintenant deux amis qui arrivaient à son sommet. Le temps était magnifique. On était au mois de mai. Le soleil avait bu toutes les vapeurs. Quelle atmosphère pure et limpide. Le regard pouvait saisir les plus minces objets dans un rayon considérable. On apercevait à quelques milles seulement les murs de Virgamen éclatant de blancheur, ses toits rouges qui pointaient çà et là, ses clochers picotés de lumière, et c'était cette ville vouée d'avance à toutes les horreurs du pillage et de l'incendie. Le bourgmestre et le conseiller s'étaient assis, l'un près de l'autre, sur un petit banc de pierre, comme deux braves gens dont les âmes se confondent dans une étroite sympathie. Tout en soufflant, ils regardaient, puis après quelques instants de silence, « Que c'est beau !» s'écria le bourgmestre. « Oui, c'est admirable !» répondit le conseiller. « Est-ce qu'il ne vous semble pas, mon digne Ventricas, que l'humanité est plutôt destinée à demeurer à de telles hauteurs qu'à ramper sur l'écorce même de notre sphéroïde ?»« Je pense comme vous, honnête Niklos, » répondit le bourgmestre. « Je pense comme vous. On saisit mieux le sentiment qui se dégage de la nature. On l'aspire par tous les sens. C'est à de telles altitudes que les philosophes devraient se former, et c'est là que les sages devraient vivre au-dessus des misères de ce monde. « Faisons-nous le tour de la plateforme ?» demanda le conseiller. « Faisons le tour de la plateforme, » répondit le bourgmestre. Et les deux amis, appuyés au bras l'un de l'autre, émettant comme autrefois de longues pauses entre leurs demandes et leurs réponses, examinèrent tous les points de l'horizon. « Il y a au moins 17 ans que je ne me suis élevé sur la tour du Beffroi, » dit Ventricas. « Je ne crois pas que j'y sois jamais monté, » répondit le conseiller Niklos. « Et je le regrette, car de cette hauteur, le spectacle est sublime. Voyez-vous, mon ami, cette jolie rivière du Var qui serpente entre les arbres. Et plus loin, les hauteurs de Saint-Hermandad, comme elles ferment gracieusement l'horizon. Voyez cette bordure d'arbres verts que la nature a si pittoresquement disposée. Ah ! la nature, Niklos, la main de l'homme, pourrait-elle jamais lutter avec elle ?»« C'est enchanteur, mon excellent ami, » répondit le conseiller. « Regardez ces troupeaux attablés dans les prairies verdoyantes, ces bœufs, ces vaches, ces moutons. Et ces laboureurs qui vont aux champs, on dirait des bergers de l'Arcadie, il ne leur manque qu'une musette. et sur toute cette campagne fertile, le beau ciel bleu que ne trouble pas une vapeur. Ah, Niklos, on deviendrait poète ici. Tenez, je ne comprends pas que Saint Siméon le Stylite n'ait pas été un des plus grands poètes du monde. C'est peut-être parce que sa colonne n'était pas assez haute, répondit le conseiller avec un doux sourire. En ce moment, le carillon de Quiquendone se mit en branle. Les cloches limpides jouèrent un de leurs airs les plus mélodieux. Les deux amis demeurèrent en extase. Puis, de sa voix calme, « Mais, ami Niklos, dit le bourgmestre, que sommes-nous venus faire au haut de cette tour ?»« Au fait, répondit le conseiller, nous nous laissons emporter par nos rêveries. »« Que sommes-nous venus faire ici ?» répéta le bourgmestre. « Nous sommes venus, répondit Niklos, respirer cet air pur, que n'ont pas vicié les faiblesses humaines. « Eh bien, redescendons-nous, ami Niklos ?»« Redescendons, ami Vantrikas. » Les deux notables donnèrent un dernier coup d'œil au splendide panorama qui se déroulait sous leurs yeux. Puis le bourgmestre passa le premier et commença à descendre d'un pas lent et mesuré. Le conseiller le suivait, à quelques marches derrière lui. Les deux notables arrivèrent au palier sur lequel ils s'étaient arrêtés en montant. Déjà, leurs joues commençaient à s'empourprer. Ils s'arrêtèrent un instant et reprirent leur descente interrompue. Au bout d'une minute, Vantrikas pria Niklos de modérer ses pas, attendu qu'il le sentait sur ses talons et que cela le gênait. Cela même fit plus que de le gêner, car 20 marches plus bas, il ordonna au conseiller de s'arrêter afin qu'il pût prendre quelque avance. Le conseiller répondit qu'il n'avait pas envie de rester une jambe en l'air à attendre le bon plaisir du bourgmestre, et il continua. Vantrikas répondit par une parole assez dure. Le conseiller riposta par une allusion blessante sur l'âge du bourgmestre, destiné par ses traditions de famille à convoler en seconde noce. Le bourgmestre descendit 20 marches encore, en prévenant nettement Niklos que cela ne se passerait pas ainsi. Niklos répliqua qu'en tout cas lui passerait devant, et l'escalier étant fort étroit, il y eut collision entre les deux notables qui se trouvaient alors dans une profonde obscurité. Les mots de butor et de malappris furent les plus doux de ceux qui s'échangèrent alors. « Nous verrons, sotte bête !» criait le bourgmestre. « Nous verrons quelle figure vous ferez dans cette guerre et à quel rang vous marcherez. »« Au rang qui précédera le vôtre, sotte imbécile !» répondit Niklos. Puis ce furent d'autres cris et l'on eût dit que des corps roulaient ensemble. Que se passa-t-il ? Pourquoi ces dispositions si rapidement changées ? Pourquoi les moutons de la plateforme se métamorphosaient-ils en tigres 200 pieds plus bas ? Quoi qu'il en soit, le gardien de la tour, entendant un tel tapage, vint ouvrir la porte inférieure, juste au moment où les adversaires, contusionnés, les yeux hors de la tête, s'arrachaient réciproquement leurs cheveux, qui heureusement formaient perruque. « Vous me rendrez raison !» s'écria le bourgmestre en portant son poing sous le nez de son adversaire. « Quand il vous plaira !» hurla le conseiller Niklos en imprimant à son pied droit un balancement redoutable. Le gardien, qui lui-même était exaspéré, on ne sait pourquoi, trouva cette scène de provocation toute naturelle. Je ne sais quelle surexcitation personnelle le poussait à se mettre de la partie. Mais il se contint et alla répandre dans tout le quartier qu'une rencontre prochaine devait avoir lieu entre le bourgmestre Vantrikas et le conseiller Niklos. Chapitre 14, où les choses sont poussées si loin que les habitants de Quiquendone, les lecteurs et même l'auteur réclament un dénouement immédiat. Ce dernier incident prouve à quel point d'exaltation était montée cette population quiquendonienne. Les deux plus vieux amis de la ville et les plus doux, avant l'invasion du mal, en arrivaient à ce degré de violence, et cela quelques minutes seulement après que leur ancienne sympathie, leur instinct amiable, leur tempérament contemplatif venaient de reprendre le dessus au sommet de cette tour. En apprenant ce qui se passait, le docteur Wix ne put contenir sa joie. Il résistait aux arguments de son préparateur, qui voyait les choses prendre une mauvaise tournure. D'ailleurs, tous deux subissaient l'exaltation générale. Ils étaient non moins surexcités que le reste de la population, et ils en arrivèrent à se quereller à l'égal du bourgmestre et du conseiller. Du reste, il faut le dire, une question primait toutes les autres et avait fait renvoyer les rencontres projetées à l'issue de la question virgaménoise. Personne n'avait le droit de verser son sang inutilement quand il appartenait jusqu'à la dernière goutte à la patrie en danger. En effet, les circonstances étaient graves et il n'y avait plus à reculer. Le bourgmestre Van Tricasse, malgré toute l'ardeur guerrière dont il était animé, n'avait pas cru devoir se jeter sur son ennemi sans le prévenir. Il avait donc, par l'organe du garde champêtre, le sieur Ottering, mis les Virgaménois en demeure de lui donner réparation du passe-droit commis en 1195 sur le territoire de Quiquendone. Les autorités de Virgamen, tout d'abord, n'avaient pu deviner ce dont il s'agissait et le garde champêtre, malgré son caractère officiel, avait été conduit fort cavalièrement. Van Tricasse envoya alors un des aides de camp du général confiseur, le citoyen Hildevert Schumann, un fabricant de sucre d'orge, homme très ferme, très énergique, qui apporta aux autorités de Virgamen la minute même du procès-verbal rédigé en 1195 par les soins du bourgmestre Natalis Van Tricasse. Les autorités de Virgamen éclatèrent de rire et il en fut de l'aide de camp exactement comme du garde champêtre. Le bourgmestre assembla alors les notables de la ville. Une lettre, remarquablement et vigoureusement rédigée, fut faite en forme d'ultimatum. Le casus belli y était nettement posé, et un délai de 24 heures fut donné à la ville coupable pour réparer l'outrage fait à Quiquendone. La lettre partit, et revint quelques heures après, déchirée en petits morceaux qui formaient autant d'insultes nouvelles. Les Virgaménois connaissaient de longue date la longanimité des Quiquendoniens, et ils se moquaient d'eux, de leur réclamation, de leur casus belli et de leur ultimatum. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, s'en rapporter au sort des armes, invoquer le dieu des batailles et, suivant le procédé prussien, se jeter sur les Virgaménois avant qu'ils fussent tout à fait prêts. C'est ce que décida le conseil dans une séance solennelle où les cris, les objurgations, les gestes menaçants s'entrecroisèrent avec une violence sans exemple. Une assemblée de fous, une réunion de possédés, un club de démoniaques n'eût pas été plus tumultueux. Aussitôt que la déclaration de guerre fut connue, le général Jean Orbidec rassembla ses troupes, soit 2393 combattants sur une population de 2393 âmes. Les femmes, les enfants, les vieillards s'étaient joints aux hommes faits. Tout objet tranchant ou contondant était devenu une arme. Les fusils de la ville avaient été mis en réquisition. On en avait découvert 5, dont 200 chiens, et ils avaient été distribués à l'avant-garde. L'artillerie se composait de la vieille couleuvrine du château, prise en 1139 à l'attaque du Quesnoy, l'une des premières bouches à feu dont il soit fait mention dans l'histoire, et qui n'avait pas tiré depuis 5 siècles. D'ailleurs, point de projectile à y fourrer, fort heureusement pour les servants de la dite pièce, mais tel qu'il était, cet engin pouvait encore imposer à l'ennemi. Quant aux armes blanches, elles avaient été puisées dans le musée d'Antiquités, haches de silex, bombes, masses d'armes, francisques, framets, guisardes, pertuisanes, verdiers, rapières, etc., et aussi dans ces arsenaux particuliers connus généralement sous les noms d'office et de cuisine. Mais le courage, le bon droit, la haine de l'étranger, le désir de la vengeance devait tenir lieu d'engins plus perfectionnés et remplacer, du moins on l'espérait, les mitrailleuses modernes et les canons se chargeant par la culasse. Une revue fut passée. Pas un citoyen ne manqua à l'appel. Le général Orbidec, peu solide sur son cheval, qui était un animal malin, tomba 3 fois devant le front de l'armée. Mais il se releva sans s'être blessé, ce qui fut considéré comme un augure favorable. Le bourgmestre, le conseiller, le commissaire civil, le grand juge, le percepteur, le banquier, le recteur, enfin tous les notables de la cité marchaient en tête. Il n'y eut pas une larme répandue, ni par les mères, ni par les sœurs, ni par les filles. Elles poussaient leurs maris, leurs pères, leurs frères au combat et les suivaient même en formant l'arrière-garde sous les ordres de la courageuse madame Ventricasse. La trompette du crieur, Jean Mistrol, retentit. L'armée s'ébranla, quittant la place et poussant des cris féroces, elle se dirigea vers la porte d'Audenarde. Au moment où la tête de colonne allait franchir les murailles de la ville, un homme se jeta au-devant d'elle. « Arrêtez ! Arrêtez ! Fou que vous êtes ! » s'écria-t-il. « Suspendez vos coups ! Laissez-moi fermer le robinet ! Vous n'êtes point altéré de sang ! Vous êtes de bons bourgeois, doux et paisibles ! Si vous brûlez ainsi, c'est la faute de mon maître, le docteur Wix ! C'est une expérience ! Sous prétexte de vous éclairer au gaz oxyhydrique, il a saturé !» Le préparateur était hors de lui, mais il ne put achever. Au moment où le secret du docteur allait s'échapper de sa bouche, le docteur Wix lui-même, dans une indescriptible fureur, se précipita sur le malheureux Hygène et il lui ferma la bouche à coups de poing. Ce fut une bataille. Le bourgmestre, le conseiller, les notables qui s'étaient arrêtés à la vue d'Hygène, emportés à leur tour par leur exaspération, se précipitèrent sur les deux étrangers sans vouloir entendre ni l'un ni l'autre. Le docteur Wix et son préparateur, houspillés, battus, allait être sur l'ordre de Ventricasse entraîné au violon quand, chapitre 15, où le dénouement éclate, quand une explosion formidable retentit. Toute l'atmosphère qui enveloppait Quiquendone parut comme embrasée. Une flamme d'une intensité, d'une vivacité phénoménale s'élança comme un météore jusque dans les hauteurs du ciel. S'il avait fait nuit, cet embrasement eût été aperçu à 10 lieues à la ronde. Toute l'armée de Quiquendone fut couchée à terre comme une armée de capucins. Heureusement, il n'y eut aucune victime. Quelques écorchures et quelques bobos, voilà tout. Le confiseur, qui par hasard n'était pas tombé de cheval à ce moment, eut son plumet roussi et s'en tira sans autre blessure. Que s'était-il passé? Tout simplement, comme on l'apprit bientôt, l'usine à gaz venait de sauter. Pendant l'absence du docteur et de son aide, quelque imprudence avait été probablement commise. On ne sait ni comment ni pourquoi, une communication s'était établie entre le réservoir qui contenait l'oxygène et celui qui renfermait l'hydrogène. De la réunion de ces deux gaz était résulté un mélange détonnant auquel le feu fut mis par mégarde. Ceci changea tout. Mais quand l'armée se releva, le docteur Wix et le préparateur Hygène avaient disparu. Chapitre 16, où le lecteur intelligent voit bien qu'il avait deviné juste malgré toutes les précautions de l'auteur. Après l'explosion, Quiquendone était immédiatement redevenue la cité paisible, flegmatique et flamande qu'elle était autrefois. Après l'explosion, qui d'ailleurs ne causa pas une profonde émotion, chacun, sans savoir pourquoi, machinalement reprit le chemin de sa maison. Le bourgmestre appuyé au bras du conseiller, l'avocat Schout au bras du médecin Custos, Franz Niklos au bras de son rival Simon Kolaer, chacun tranquillement, sans bruit, sans avoir même conscience de ce qui s'était passé, ayant déjà oublié Virgamen et la vengeance. Le général était retourné à ses confitures et son aide-de-camp à ses sucres d'orge. Tout était rentré dans le calme, tout avait repris la vie habituelle, hommes et bêtes, bêtes et plantes, même la tour de la porte d'Audenarde, que l'explosion, ces explosions sont quelquefois étonnantes, que l'explosion avait redressée. Et depuis lors, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une discussion dans la ville de Quiquendone. Plus de politique, plus de clubs, plus de procès, plus de sergents de ville. La place du commissaire Passoff recommença à être une sinécure, et si on ne lui retrancha pas ses appointements, c'est que le bourgmestre et le conseiller ne purent se décider à prendre une décision à son égard. D'ailleurs, de temps en temps, Il continuait de passer, mais sans s'en douter, dans les rêves de l'inconsolable Tatanémance. Quant au rival de France, il abandonna généreusement la charmante Suzelle à son amoureux, qui s'empressa de l'épouser 5 ou 6 ans après ces événements. Et quant à Madame Ventricasse, elle mourut 10 ans plus tard, en les délais voulus, et le bourgmestre se maria avec Mademoiselle Pélagie Ventricasse, sa cousine, dans des conditions excellentes pour l'heureux mortel qui devait lui succéder. Chapitre 17, où s'explique la théorie du docteur Oix. Qu'avait donc fait ce mystérieux docteur Oix ? Une expérience fantaisiste, rien de plus. Après avoir établi ses conduites de gaz, il avait saturé d'oxygène pur, sans jamais leur fournir un atome d'hydrogène, les monuments publics, puis les maisons particulières, et enfin les rues de Quiquendone. Ce gaz, sans saveur, sans odeur, répandu à cette haute dose dans l'atmosphère, cause, quand il est aspiré, les troubles les plus sérieux à l'organisme. À vivre dans un milieu saturé d'oxygène, on est excité, surexcité, on brûle. À peine rentré dans l'atmosphère ordinaire, on redevient ce qu'on était avant, voir le cas du conseiller et du bourgmestre, quand, au haut du beffroi, ils se retrouvèrent dans l'air respirable, l'oxygène se maintenant par son poids parmi les couches inférieures. Mais aussi à vivre en de telles conditions, à respirer ce gaz qui transforme physiologiquement le corps aussi bien que l'âme, on meurt vite, comme ces fous qui mènent la vie à outrance. Il fut donc heureux pour les Quiquendoniens qu'une providentielle explosion eût terminé cette dangereuse expérience en anéantissant l'usine du docteur Oix. En résumé et pour conclure, la vertu, le courage, le talent, l'esprit, l'imagination, toutes ces qualités ou ces facultés, ne seraient-elles donc qu'une question d'oxygène ? Telle est la théorie du docteur Oix. Mais on a le droit de ne point l'admettre, et pour notre compte, nous la repoussons à tous les points de vue, malgré la fantaisiste expérimentation dont fut le théâtre l'honorable ville de Quiquendone.